Je donne la parole maintenant à... Alors, qu'est-ce que je fais, Jean-Michel? Monsieur Marc Rolland, directeur à la DREIC, Relations internationales, européennes et de coopération.
Voilà, je suis adjoint de la directrice des relations européennes, internationales et de la coopération.
Madame Gavini...
Christine Gavini-Chevet.
Chevet, c'est ça. Comment? Le micro ne marche pas?
Ah. Pardon, on va se rapprocher.
Peut-être se rapprocher plus, oui. Parce qu'ici, on enregistre, hein, tout.
Donc, merci Jacques de me donner la parole et merci à Jean-Michel Blanquer de me laisser parler avant lui. Chaque année extrêmement heureux. J'essaye de venir tous les ans. À Paris, c'est encore plus facile. Et à l'étranger, c'est également tout à fait une joie pour rencontrer tous les participants du GERFLINT, les rédacteurs en chef des revues Synergie. En effet, cela fait déjà longtemps, je ne sais pas si ça fait depuis 14 ans, un peu moins,
14 ans.
À peu près depuis 14 ans que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur de la Recherche contribue à aider, au travers de la direction que je représente aujourd'hui, le fonctionnement du GERFLINT. Cela doit beaucoup également à Nelson Valero Gomez, il faut quand même le dire, puisque Nelson... a été pendant longtemps un membre important de cette direction des relations européennes et internationales. Et avant d'être à la direction des relations européennes et internationales, comme vous le savez, Nelson a exercé, il a exercé ensuite aussi, mais il a exercé ses talents en Amérique latine. Et il était dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'années, un de ceux qui ont été à la base de la création du GERFLINT. Alors pourquoi la direction des relations européennes internationales, la coopération du ministère soutient l'action du GERFLINT? C'est une question que l'on ne se pose plus, mais il faut dire que au départ, ce n'était pas si évident que ça, parce que nous ne sommes pas une direction qui a vocation à financer des revues scientifiques, des revues pédagogiques. Il y a d'autres dispositifs pour ça. Nous sommes plus dans l'aide à la construction de politiques internationales, l'aide auprès des ministres, l'aide auprès des directions générales du ministère de l'Éducation nationale. Mais dès le départ, nous avons bien perçu que la constitution d'un réseau d'universitaires, d'un réseau de chercheurs sur la question du français langue internationale était en soi une action internationale porteuse de résultats qui dépassent certainement ce qui est déjà très important en soi, c'est la scientificité des revues et de la recherche de ces universitaires et chercheurs. Mais je voudrais aussi insister sur la place considérable du GERFLINT par rapport aux priorités de l'action internationale d'un ministère, en essayant de livrer une petite réflexion sur qu'est-ce qu'une politique internationale pour un ministère de l'Éducation, pour un ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quelles sont les finalités principales? Parce que nous avons un certain nombre d'objectifs, nous avons des objectifs qui se déclinent par thématique, par secteur géographique. Mais au fond, pourquoi avoir une politique internationale dans un ministère? Après tout, parfois, on entend que du côté des chercheurs, on dit c'est la science qui l'emporte. Vraiment, qu'est-ce que vous allez nous parler d'international en tant que tel? L'international, c'est inclus dans les relations scientifiques. Peut-être que les universitaires pourraient dire la même chose. Et au sein du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer certainement en dira un mot. Mais ça ne va pas de soi, cette finalité de l'international. En fait, je crois que les finalités, on les placerait à quatre niveaux, en soulignant donc quatre aspects. D'une part, une finalité d'influence et de rayonnement. Influence et rayonnement, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir susciter un intérêt auprès de nos partenaires étrangers, partenaires internationaux, susciter des sympathies, susciter de la proximité, susciter des affinités. Et à ce titre, le Gerflint y concourt énormément, en particulier avec son sujet, un de ses sujets, enfin son sujet central, qui est la question de la langue française. Alors bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale et une direction internationale n'est pas ne sont pas les seuls à œuvrer pour cela dans le domaine des politiques publiques. C'est avec le ministère des Affaires étrangères et c'est avec tous les acteurs et en particulier les institutions de recherche, les institutions universitaires. Michel Vieborka représente lui-même une de ces institutions très, très importantes. Mais cette question du rayonnement et de la langue française, ça, je pense que ça ne prête pas à discussion. Deuxièmement, c'est la question qui se pose actuellement pour les systèmes éducatifs à tous les niveaux, c'est celui de la formation des jeunes dans l'objectif d'assurer pour notre pays une capacité compétitive, une capacité de performance, une capacité d'accès à l'emploi. Et là, les relations internationales, l'ouverture internationale, la coopération internationale sont dans le monde de la mondialisation, si je peux dire, également absolument décisifs. Le troisième élément, c'est l'ouverture internationale en tant que telle. L'ouverture internationale qui permet à la jeunesse, au travers des enseignants, et de toute la communauté éducative d'être ouvert au pluralisme, à l'altérité, et même, je dirais, à la compréhension et à la connaissance du monde. Le sous-titre du colloque, les enjeux de la laïcité à l'ère de la... C'est pas le sous-titre, c'est le complément du titre. Les enjeux de la laïcité à l'ère de la diversité culturelle planétaire. Il faut que les jeunes soient en mesure de comprendre et d'avoir de s'y retrouver et de construire leur vie à l'ère de la diversité culturelle planétaire. Et cela suppose l'ouverture à l'international et non pas le risque du repli sur soi, même si le repli sur soi est aussi quelque chose de nécessaire, ça fait partie de la démarche réflexive, mais si le repli sur soi est le rejet de l'autre ou le rejet du monde, nous allons évidemment probablement à des catastrophes. Et puis le quatrième point, et je pense que cela correspond très bien à l'esprit de ce colloque, c'est les ministères éducation nationale, enseignement supérieur et la recherche ont aussi à avoir comme priorité la réflexion, la promotion, l'échange sur nos propres valeurs éducatives et d'enseignement. À l'échelle planétaire, ce n'est pas un sujet anodin. L'éducation peut être aussi considérée comme un marché, elle peut avoir uniquement des finalités, je dirais, extrêmement matérielles. Or, l'éducation n'est pas seulement cela. L'éducation est porteuse de valeurs pour la construction de l'individu et aussi pour la construction de société. Et à ce titre, effectivement, une des valeurs, et peut-être la valeur centrale de notre éducation, l'éducation nationale, dans notre histoire en France, c'est la valeur de la laïcité. Alors, je ne voudrais pas parler sur le fond, sur pourquoi la laïcité est une valeur centrale, mais cela sera l'objet des présentations et des échanges au cours de ces deux journées. Alors, cette valeur de la laïcité, comme Michel Wiewerka l'a indiqué, effectivement, eh bien, elle est tout à fait d'actualité. Au cours des toutes dernières années, au cours du débat politique récent, elle a vraiment émergé, elle a fait l'objet de différents rapports, d'ailleurs successifs, au cours de ces dernières années. Elle a été au cœur du débat politique et j'espère que cela vous semblera pas opportuniste que je dise qu'il n'est pas peut-être sans signification que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, est aussi un philosophe qui a écrit, enfin qui a consacré la part importante de sa réflexion philosophique et de ses livres à la question de la laïcité, notamment en 2010, en consacrant un livre à Ferdinand Ferdinand Buisson, qui d'ailleurs était en partie un des prédécesseurs de Jean-Michel Blanquer, puisqu'il a été pendant quelques années, à la fin du 19e siècle, pendant une quinzaine d'années, directeur, enfin en charge de la direction de l'école primaire. Mais si la laïcité est une valeur française, est une valeur de la République, les débats certainement parleront de l'histoire de la laïcité tout au long du 19e siècle, après la Révolution française, et de la valeur constitutive qu'elle a eue dans notre système et dans notre société. Ce n'est pas simplement une valeur française. Pour d'autres pays, c'est également une valeur décisive. Je pense, par exemple, à la Tunisie ou à la Turquie, et là aussi avec une actualité extrêmement forte. Et je me demande aussi si, au-delà de cette histoire de la laïcité qui est en France la tentative de résoudre, et la tentative, mais aussi en grande partie une solution de résoudre la relation entre l'Église et l'État, entre la religion et l'État, faire la part de l'une et de l'autre dans l'espace public, avec différentes dimensions, pas simplement scolaires, mais l'école est quand même, je pense, l'axe principal de la question de la laïcité. Si aujourd'hui, les valeurs de cette laïcité, l'esprit de cette laïcité, ce qu'elle peut apporter à l'esprit public, n'est pas effectivement à considérer dans les questions qui se posent au niveau international, qui se posent dans un contexte où, comme cela figure également dans la présentation que Jacques Cortès a fait de ce colloque, où évidemment les mouvements migratoires mettent en contact des cultures, des modes de vie et des croyances différentes. Et je crois qu'au-delà peut-être même des questions religieuses qui, et du rapport des États et de la religion, la question des relations internationales pourrait être inspirée de la philosophie qui sous-tend la laïcité. La laïcité, ce n'est pas simplement une neutralité, c'est une philosophie et c'est une aspiration qui peut avoir une valeur universelle.
Merci Marc.